J'en profite pour dire effectivement qu'on a dépassé donc les 158 000 euros et que si on veut franchir le next palier, ce que je vous invite chaudement à faire ce soir, hein, on s'est fixé un objectif jusqu'à... le prochain palier pardon est fixé à 174 000 euros et comme on vous l'a dit, chaque palier permet de financer une émission. Donc si jamais on y arrive ce soir, c'est champagne. Ou pas, mais bon. Il y aura de la bière en tout cas, ça on peut vous le garantir. Hein. Et de la bonne bière. Hein. Non, c'est pas... On va désormais inviter donc notre invité politique, ça fait beaucoup d'invités, à rejoindre l'invitation du plateau. Et on a un jingle! Bonsoir, Louis Boyard, l'influenceur politique, le politico-influenceur. Comment on vous désigne ce
Moi,
soir?
Moi, je suis un politique, un jeune politique, mais avant tout un jeune. Mais c'est le sens de la discussion, je pense qu'on va avoir tout de suite. Je pense que c'est le sujet de la présence ici.
Ah non, c'est pas vous qui orientez les débats, hein. Vous allez peut-être être surpris. Attention, vous avez entendu parler de la malédiction Baxit?
Non.
Non, vous pouvez rester, vous inquiétez pas. Peut-être pour vous présenter, Louis Boyard, vous étiez syndicaliste lycéen à l'Union Nationale Lycéenne, l'UNL, avant de devenir chroniqueur chez Cyril Hanouna, et vous êtes désormais député du Val-de-Marne à seulement 22 ans.
Ouais, c'est correct.
C'est un truc de ouf.
Bon, même moi, je suis choqué.
Ah oui, ah, oui. Bah, justement, parlons-en, ça fait quoi d'être... du coup, vous êtes le plus jeune de l'Assemblée Nationale, là, concrètement.
Je suis le deuxième plus jeune, il y en a un autre qui est plus jeune, qui s'appelle Tematei Le Gaïc, qui est un député qui siège au groupe GDR, qui est un indépendantiste polynésien. Okay. Et d'ailleurs, je l'ai adoré parce qu'il avait fait, dans sa première interview, on lui avait demandé « Vous voulez que la Polynésie quitte la République ?» Il a répondu « Non, je veux que la République quitte la Polynésie. Okay. » C'est ce jour-là qu'a commencé une longue histoire d'amour entre lui et moi. Je l'adore, vraiment, Tematei ne change rien.
Et du coup, quel âge a-t-il ?
Il a 2 mois de moins que moi, donc là, il doit être sur ses 22 ans, lui aussi.
Ah, vous devez avoir un peu le seum, quand même, du coup.
Mais non, parce que j'étais trop content, parce qu'en fait, de base, la plus jeune, c'était Marion Maréchal Le Pen. Et donc, du coup, j'avais le seum. Du coup, non seulement, moi, j'étais content, parce qu'on a battu le record de Marion Maréchal, mais du coup, on a doublement battu, donc vraiment aller dans les limbes de l'histoire, là où est la place du Rassemblement National, de Reconquête et tout, donc on est tous les deux très contents.
Oui, bon, on peut en discuter, affaire à suivre. L'avenir nous le dira, s'ils sont vraiment perdus dans les limbes de l'histoire. J'ai bien peur que non, malheureusement. Alors, on a vu votre petite vidéo là sur le Blocus Challenge.
Ouais.
Bon. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire et mon opinion s'en tape ce soir. mais les chroniqueurs sont là pour vous challenger précisément sur ce joli Blocus Challenge. C'est comme ça qu'on mobilise la jeunesse en 2023?
L'histoire de tout ça. Je pense qu'il faut commencer à reposer un peu de contexte.
C'est
bien recontextualisé. J'étais dans un lycée qui s'appelle le lycée Georges Brassens dans le Val-de-Marne, qui était, on le surnommait le lycée maudit. C'était vraiment le lycée le plus pourri du Val-de-Marne. Pour vous raconter l'histoire, on était en dessous de l'aéroport d'Orly, donc on avait les avions juste au-dessus de nous, construits sur une ancienne sablière en zone inondable, donc le sol de la cour s'effondrait, le plafond s'effondrait sur nous, on avait des rats, on avait des serpents, des champignons, de la
tuberculose pulmonaire.
C'est les pros qui m'ont dit ça. Mais on était à côté d'une décharge, on était à côté d'une zone Céveso, enfin je vous jure, on avait tout quoi. Et en fait, il y a un moment, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, il y a un truc que vous avez pas, c'est de l'amiante. Et là, bam, il y a un bloc d'amiante qui tombe au milieu de la salle de classe. Nickel. Donc du coup, on a fait des pétitions, on a fait des manifs et rien n'a changé. Et du coup, avec mes potes et les autres lycéens, on a bloqué le lycée pendant 3 à 4 mois avec les professeurs qui faisaient aussi un droit de retrait. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai compris que on peut faire tout ce qu'on veut, mais le seul langage qu'ils comprennent, le seul rapport de force, en tout cas l'un des seuls rapports de force qu'a la jeunesse, c'est le blocage des lycées et des universités. Et
est-ce que vous avez publié votre plus belle photo sur TikTok?
J'avais pas encore TikTok à l'époque, mais honnêtement, je l'aurais fait. mais on était fiers, parce qu'en fait, imaginez, vous avez 16, 17, 18 ans, et vous réussissez à faire cracher 30 millions d'euros à la région Île-de-France et au département, parce qu'on a obtenu la reconstruction. Et du coup, moi, c'est un peu le fil rouge de tout mon engagement politique, c'est d'essayer de dire que la jeunesse, elle a une légitimité politique à s'engager, qu'elle a la légitimité de penser la politique, de faire de la politique, et à chaque fois que les politiques, on leur demande comment est-ce que les jeunes doivent se mobiliser, ils disent faites des manifestations.
Alors, pardon, je vous interromps, parce que vous êtes pas en train de répondre répondre à ma question.
Bah, je vais répondre.
J'y suis presque.
C'est que, okay. En fait, les jeunes qui ont organisé des grèves mondiales pour le climat, des dizaines de millions de personnes, bah, on n'a pas vraiment été entendus. Et donc, du coup, en fait, nous, l'objectif, c'était de soutenir et de mettre en lumière les blocages de lycées et d'universités contre la réforme des retraites.
Donc, c'était pas pour les inciter, c'était plus pour les visibiliser.
En fait, c'était pour les soutenir aussi. Bah, c'était parce qu'on disait, bah, va y avoir des blocages contre la réforme des retraites qui étaient appelés pour ce mardi-là. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, on va montrer un soutien, on va relayer l'appel. Et en même temps aussi, bah, on va soutenir, en fait. Et on voulait aussi le faire d'une certaine manière parce que, bah, une mobilisation, ça, enfin, pour qu'elle soit populaire, elle doit aussi s'imprégner des codes qui sont les nôtres. Elle a le droit d'être joyeuse, elle a le droit d'être drôle. Et du coup, c'était l'objectif de ce blocage challenge qui, à la fois, a rempli sa mission pour deux rôles. Premièrement, elle a beaucoup tourné. Donc, du coup, elle a informé du fait qu'il y avait des blocages de lycées et d'universités. Et surtout, elle a lancé une panique bourgeoise qui était délicieuse. Parce que les gens,
le hashtag, il a surtout tourné sur les médias et les réseaux sociaux. Et des gens qui disaient que c'était peut-être pas très pertinent. Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'on a plus vu de photos de Valérie Pécresse. Pardon.
Non, je disais, c'est surtout vous que ça a mis en lumière en vrai ce truc-là.
En soi, pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de. En fait, il y a eu des bons chiffres de mobilisation. Il y a des gens qui nous ont envoyé des photos. Il y a des gens qui n'ont pas envoyé de photos. Et honnêtement, moi, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est que ça se mobilise derrière. Et en fait, on parlait beaucoup de ce que faisait l'intersyndicale, mais on parlait pas de ce que faisait l'interorga de jeunesse. Et donc, du coup, nous, l'objectif, c'était à la fois, de montrer un soutien, et puis derrière aussi de lancer un débat public, parce qu'au fond, qu'est-ce qui les dérange ? Il y a deux choses qui les dérangent. Premièrement, qu'on utilise des codes qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire les codes de la jeunesse qui sont les miens. J'utilise TikTok, je regarde TikTok. Enfin, je veux dire, c'est ma culture, quoi.
Quand vous dites ils, c'est qui ?
Bah, c'est toute une partie de la classe politique et médiatique qui n'est pas en phase avec la culture et les codes de la jeunesse, et aussi qui ne reconnaît pas la légitimité à se mobiliser. Et je le redis, mais on peut faire toutes les manifs qu'on veut. En fait, le seul langage qu'ils comprennent, c'est les blocages de lycées et d'universités. Et je considérais que c'était mon rôle de justement soutenir les jeunes qui allaient le faire et de relayer cet appel à le faire. Et donc, bah, ça a lancé le hashtag Blocus Challenge qui a lancé un débat public, quoi.
Mais il y en a qui ont eu un peu l'impression d'être pris pour des cons, en fait. Est-ce que vous comprenez que le message, il ait pu ne pas passer ?
En fait, il y a des personnes qui disaient oui, c'est infantilisé. Mais en fait, ce qui est infantilisant, c'est de croire qu'il y a des jeunes qui vont mobiliser uniquement pour une visite de l'Assemblée nationale.
Mais c'est pas infantilisant de dire que s'il n'y a pas de challenge TikTok, justement, les gens vont pas se mobiliser ?
L'objectif, c'est des appels à bloquer les lycées et les universités, j'en ai fait plein. J'en ai fait un quand ils ont refusé le repas à 1 euro. J'en ai fait quand il fallait parler Parcoursup. Enfin, je veux dire, ça fait des mois.
Je l'ai fait
dans un discours à l'Assemblée nationale. Je l'ai fait partout en expliquant justement qu'ils avaient raison de se mobiliser parce qu'en ce moment, les jeunes, on les respecte pas. Et tous ces éditorialistes de plateau n'en pensaient rien. Par contre, à partir du moment où on le fait sous forme d'un challenge TikTok, là, tout de suite, ça les intéresse et ça les indigne. Donc, c'est pas le seul format que j'ai utilisé. J'utilise tous les formats qui sont possibles. Et donc, du coup, on a lancé celui-là. Moi, je suis très content, en fait, parce que ça a lancé un débat, parce que ça a informé, parce que ça a visibilisé, et aussi parce que derrière, les jeunes qui bloquaient les lycées et les universités, ils pouvaient savoir que derrière, il y avait des politiques qui leur reconnaissaient ce droit, cette légitimité, et qui seraient derrière eux pour les soutenir, ce qu'on a notamment fait pendant la mobilisation de mardi.
Et justement, sur la vision du paysage médiatique, je crois qu'Antoine avait une petite idée.
Ben pourquoi pas, oui. Je pense qu'en effet, c'est essentiel pour les partis politiques de pouvoir investir les réseaux sociaux, pouvoir investir Internet en particulier pour pouvoir toucher la jeune génération, parce que sur les 18-29 ans, c'est une courte majorité de cette catégorie d'âge qui utilise d'abord Internet et les réseaux sociaux pour s'informer en matière politique. Donc ça, évidemment que c'est essentiel pour les partis politiques d'aller sur ces formats-là. Néanmoins, on a l'impression qu'il y a une sorte d'évolution du contenu politique qui peut y avoir sur les réseaux sociaux. Enfin, par exemple, Mélenchon, qui est quand même un précurseur de l'utilisation d'Internet, de YouTube, entre la revue de la semaine qu'il lance en 2017, où c'est des vidéos qui durent 30 ou 40 minutes, où il peut vraiment aborder les sujets en profondeur et du coup pouvoir avoir une vraie pensée politique, et maintenant l'utilisation des nouveaux réseaux sociaux où c'est le format TikTok très court, où c'est avec des références aussi qui sont pas politiques. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une dépolitisation du message politique avec cette évolution des différents formats qui sont disponibles sur les réseaux sociaux ?
Non, je pense pas. Au contraire, je pense justement que, enfin, en fait, même c'est pas une question de politisation, parce que moi je crois que la jeunesse, elle est ultra politisée.
Oui, non, mais bien sûr.
Parce qu'elle est ultra connectée, ultra informée.
Oui, clairement.
Maintenant, la question, c'est comment est-ce que nous, politiques, on fait pour pouvoir aller s'adresser à un public à qui on n'a pas appris à se connecter aux institutions ? Parce que c'est bien ça le fond du problème. C'est que à l'école, on a des cours d'EMC de temps en temps, mais je veux dire à 18 18 ans, quand on sort, on connaît pas l'histoire des courants politiques, la compétence du département, des régions. Et en fait, à 18 ans, il y a beaucoup de jeunes qui disent, bah, moi, j'ai un avis, mais en fait, je connais pas et je me sens pas forcément légitime. Et du coup, je considère que, bah, moi, en tant que jeune député de 22 ans, bah, mon job, c'est justement d'essayer de connecter l'institution dont je fais partie aux jeunes en utilisant des codes qui sont les miens. Parce qu'en vrai, je me force même pas. C'est des trucs que je regarde tous les jours, ils me font marrer, je les refais. Et donc, justement, en fait, c'est une nouvelle manière de faire. Et bien sûr, elle est à évoluer, elle est à construire. Il y a un débat sur le sujet. Et c'est trop bien d'avoir des débats sur ça. Mais j'essaye de poser des petites pierres comme ci, comme ça. Et justement, je me sens pas forcément compris parce que vous voyez qu'il y a tout plein de gens qui disent influenceur, patati patata. Mais moi, je m'en fous. Je veux pas être influenceur. Je me fais pas de fric sur ça. C'est pas mon métier. Ce que je veux, par contre, c'est essayer de porter des discours et des messages politiques en utilisant des codes qui sont les miens. Et c'est ça qui est pas compris.
C'est un enjeu d'incarnation, donc?
Incarnation, je sais pas. Moi, je cherche pas particulièrement à incarner. Moi, je suis dans mon truc, en fait.
Enfin, ouais, vous parlez du fait que quand même votre âge, votre style, votre façon de faire a un impact, vraisemblablement.
Bah, ça a un impact. Et en même temps, je le force pas. Je reste moi-même. Enfin, je veux dire, petit moment confidence. Moi, quand je sers pas la main au RN, je sais pas que ça va faire un tollé. C'est juste que ça me paraît être la base. On sert pas la main au RN. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que parfois, quand j'arrive à l'Assemblée nationale, je fais des trucs. Et apparemment, faut pas les faire. Et du coup, genre, ça crée des trucs. Et en fait, à chaque fois, et c'est aussi ça où, parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent pas de dire, le buzz. Par exemple, Hanouna, le buzz. Mais en fait, à chaque fois qu'on a fait parler, on a toujours essayé de faire parler de sujets politiques. Blocus Challenge, essayer de faire parler de la légitimité et du droit des jeunes de se mobiliser. Hanouna, on a essayé de faire parler de concentration des médias. Poignée de main avec le Rassemblement National, du fait qu'il faut lutter contre l'institutionnalisation du Rassemblement National. Et du coup, nous, on essaie de mettre en avant des messages politiques avec des méthodes qui sont pas forcément communes. Et donc, du coup, souvent, c'est réduit à influenceurs, buzz, alors qu'en vrai, je suis juste un type de 22 ans qui arrive à l'Assemblée nationale et qui essaie de convaincre d'autres jeunes qu'en fait, les institutions politiques, c'est un des meilleurs outils que peut avoir la jeunesse pour essayer de changer le monde.
Vous cherchez un peu le buzz quand même.
Bah, franchement, pas toujours. Enfin, je veux dire, par exemple, Hanouna, je l'ai pas cherché. Poignée de main avec le RN, je l'ai pas cherché. Blocus
non,
Challenge,
oui,
je pensais pas que ça allait créer
Blocus
tout ça.
Challenge, quand vous lancez un challenge sur TikTok, vous cherchez quand même que ça fasse des vues.
Bah, moi, je m'attendais surtout à ce que ça fasse des vues auprès des gens à qui je veux parler, c'est-à-dire aux jeunes.
Mais je pensais pas.
En vrai, si, ça a grave tourné. Il y a plein de gens qui m'en ont envoyé. Je vais pas dire que, par contre, la mobilisation, c'est le Blocus Challenge qui a lancé la mob, hein, certainement pas. C'est pas moi qui me suis levé le matin pour aller bloquer mon lycée ou mon université. Hein. C'est les jeunes qui font la mobilisation, pas moi. Mais par contre, sur derrière les gens à qui on veut parler, ça a permis de le faire parler à ceux à qui on veut en parler. Par contre, ce que j'avais pas prévu, c'était la panique bourgeoise derrière. C'est-à-dire CNews qui en parle pendant des heures, BFM TV qui met des éditorialistes, je sais même pas qui c'est, ils me connaissent même pas et ils en font un édito de 30 minutes. Et d'un autre côté, en soi, je m'en fiche. C'est pas eux que je veux parler. C'est pas eux.
Mais je pense que il y a une tension à l'heure actuelle dans le métier de représentant, enfin pas, c'est pas un métier, mais dans la représentation politique, entre un impératif d'être proche de la population et en même temps une demande aussi d'avoir une certaine stature, d'avoir une certaine respectabilité dans la façon dont on se comporte. Et je pense que c'est cette ligne de crête qui est extrêmement difficile à trouver, notamment quand on essaye de communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des formats qui sont particuliers, en particulier si tu utilises TikTok ou ce genre de choses. Et c'est ça qui crée aussi certains décalages par moment, dans le fait d'aller trop loin d'un côté ou de l'autre, d'être pas suffisamment proche, d'être trop proche, mais en perdant une certaine stature, et c'est ça qui est compliqué à l'heure actuelle.
Bah, bien sûr, c'est un équilibre à trouver, et d'un autre côté, j'ai pas une seule, parce que justement, on y réfléchit, enfin, d'un autre côté, on a la fonction, il y a l'institution, mais d'un autre côté aussi, l'Assemblée nationale, c'est les gens qui la composent qui la font, et je suis aussi lucide sur le fait que, enfin, je veux dire, Éric Dupond-Moretti qui fait 3 bras d'honneur à l'Assemblée nationale, oh, quelques brèves, moi, ça a fait tout un week-end, je veux dire, moi, si j'avais fait ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'a fait Éric Dupond-Moretti, c'était terminé pour moi. Et donc, d'un autre côté, on n'est pas, enfin, je veux dire, parce que moi, je suis aussi lucide sur ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a 22 ans, on va attendre beaucoup plus de moi que je rentre dans un moule, que je rentre dans des codes. Sauf que c'est pas ce que je veux faire. C'est pas pour ça que j'ai été élu. Et en fait, je serai pas moi-même. Et je pense que même les gens, ils attendent, justement, d'un jeune élu qui reste lui-même et qui soit du côté, qui soit, voilà, qui représente une culture dont, justement, on reproche qu'elle n'est pas représentée en politique. Donc, parfois, ça gêne. Parfois, on peut peut-être faire des conneries. Mais on essaye et on changera pas.
Non, mais c'est intéressant. Vous parliez du fait que lorsque vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas forcément les codes, vous ne savez pas qu'il ne faut pas faire ça, et du coup, ça buzz derrière, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a une difficulté à avoir 22 ans et être député aujourd'hui ?
Bah, ils sont un peu paternalistes, hein. Mais enfin, je veux dire, d'un autre côté, je sais très bien à qui je m'adresse, quoi. Enfin, c'est des gens qui votent contre le repas à 1 euro, donc c'est pas eux qui vont comprendre vraiment la jeunesse, la culture, les codes. Et d'un autre côté aussi, on est dans une lutte, on est dans un combat. Enfin, moi, tout mon engagement politique, c'est celui d'une lutte et d'un combat contre des politiques qui justement veulent pas servir les intérêts des jeunes. Donc, quand je rentre à l'intérieur, je sais très bien qu'ils vont pas être agréables avec moi, qu'ils vont pas être gentils, qu'ils vont pas être là pour me légitimer. Mais justement, ça permet de mettre de la contradiction. Et moi, je pense que la contradiction, la conflictualité, ça permet justement de révéler un sujet politique. Et donc, oui, ça crée forcément des frictions, mais on est là pour ça.
Oui, et puis d'autant plus qu'on parle toujours de problèmes de représentativité de l'Assemblée nationale, et quand on évoque ce sujet-là, on a toujours l'impression que c'est seulement en termes de genre ou c'est seulement en termes de classe sociale. Mais il y a aussi des problématiques d'âge qui se posent. Et donc, d'avoir aussi une focalisation juste sur toi parce que t'es jeune, c'est aussi problématique, parce que c'est normal qu'on puisse avoir différentes catégories d'âge au sein de l'Assemblée nationale.
Mais pour moi, en fait, c'est même pas qu'une question d'âge, parce que c'est surtout une question d'être en phase avec les aspirations politiques. Parce que il y a quand même des aspirations politiques dans la jeunesse qui sont ultra ambitieuses en termes de, sur les questions du réchauffement climatique, sur les questions de la précarité, même sur les questions de féminisme, sur les questions de genre, sur les questions d'antiracisme. La jeunesse, elle apporte un regard qui est neuf, un nouveau souffle. Mais justement, on empêche cette barrière-là de passer. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous avez une jeune personne qui arrive et qui justement fait évoluer ce mouvement de pensée, directement c'est wokiste, instrumentalisé. Alors que non, en fait, il faut écouter, il faut l'écouter, ça existe. Et c'est pas, vous avez des personnes qui peuvent avoir 40, 50 ans, mais qui sont justement en phase avec ce mouvement de pensée qui s'opère dans la jeunesse.
Si je dis pas de bêtises, vous êtes depuis la fin de l'année dernière le responsable des interventions dans la jeunesse de LFI, c'est ça ? On sait qu'il y a eu un certain décrochage avec les jeunes, avec l'affaire Quatennens, certaines interventions de Jean-Luc Mélenchon et tout. Comment vous l'avez perçu et comment justement vous comptez les raccrocher un peu ces jeunes par rapport à ça ?
Nous, la position, enfin en fait, c'est même pas tant comment réussir à séduire le jeune, on s'en fout de ça. Enfin, je veux dire, nous, on
considère... Non, mais vous avez concrètement perdu des militants et militantes sur le terrain jeune.
Mais on a perdu chez les jeunes et même un petit peu partout. Hein.
Oui. C'est votre sujet, les jeunes.
Mais nous, notre objectif, c'est plutôt justement, la France insoumise, on est un mouvement qui se veut être au service des gens qui mènent des combats. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui ont été élues alors qu'elles ont mené des combats. Enfin, je veux dire, par exemple, Rachel Keke, c'est typiquement ce que la France insoumise souhaite, c'est-à-dire avoir des personnes qui ont mené des luttes sociales, qui savent ce que c'est que de combattre et qu'on va envoyer ensuite derrière aller en soutenir d'autres. Parce que nous, on considère que la démocratie, elle se fait pas tous les 5 ans et qu'un mouvement social, ça aide à construire la démocratie. Et du coup, moi, mon rôle, mais avec beaucoup d'autres, c'est justement d'essayer d'aller apporter un soutien à toutes les mobilisations de la jeunesse. Et donc, du coup, mon rôle, c'est de suivre un petit peu tout ça et d'essayer de faire en sorte d'être un appui.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que justement le fait d'intégrer des institutions type l'Assemblée, d'être élu, etc., et avoir des mandats, ça ne contribue pas à une forme d'institutionnalisation du combat, effectivement, que vous êtes en train de souligner, et qui perd en fait de sa nature et qui perd aussi de son dynamisme? Parce que forcément, quand vous intégrez l'Assemblée nationale, vous êtes obligé de répondre à un certain nombre de codes, dans une certaine mesure. Et en tout cas, vous inscrivez dans une démarche réformiste, en fait.
Justement, on nous reproche tout le temps de pas avoir les codes et de tout le temps être dans une démarche de combativité, de lutte.
Oui, néanmoins, vos outils, s'opposer. Ça reste les mêmes que les autres. En fait, c'est la loi, c'est le fait de voter, etc.
Donc, vous
acceptez la démarche réformiste, en fait.
Nous, on est pour une révolution citoyenne. Enfin, je veux dire, nous, notre objectif, on est lucide. Hein, à l'Assemblée nationale, c'est pas comme ça qu'on réussira à faire l'écosocialisme. Ce dont on a besoin, par contre, c'est de convaincre des gens. Et l'Assemblée nationale, ça nous sert à ça. L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Notre rôle, c'est d'exprimer la voix du peuple qui nous a élus. Et donc, du coup, on essaie de convaincre, de faire des interventions, de faire entendre nos lignes politiques pour essayer de reconvaincre derrière aussi de batailler à l'Assemblée nationale. Hein. Sur la réforme des retraites, on a tout fait pour les empêcher de la faire. Et puis, enfin, notre objectif final, nous, c'est la 6e République. On est conscient qu'on est en train de participer à des institutions de la 5e République qui sont pourries de l'intérieur et que, justement, il faut essayer de convaincre de faire une Assemblée constituante avec des citoyennes et citoyens qui n'ont jamais été élus et qui écriront une nouvelle constitution. Mais justement, le fait qu'on soit là, c'est justement un symptôme d'une 5e République qui est mourante. Parce que nous sommes des élus de la 5e République qui disons justement que nous ne voulons plus faire partie de cette 5e République et qu'il en faut une 6e. C'est ça, nous, la démarche que l'on veut avoir.
Je me permets juste d'insister, sur Quatennens, parce que vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Le fait est que vous payez un peu ce que Jean-Luc Mélenchon a dit. Mais comment vous raccrochez encore une fois ces gens sur le terrain qui s'y retrouvent pas, en fait,
et qui ont tendance quand même à souligner en fait l'incohérence du programme qui est profondément féministe, et j'étais la première à le dire, et aussi les actes, en fait. C'est-à-dire que quand Adrien Quatennens revient à l'Assemblée nationale alors qu'il est condamné pour violence conjugale et qu'il est applaudi par une partie du groupe, le message est quand même très violent, quoi.
En fait, il y a la question des violences sexistes et sexuelles en politique et même en général dans toute la société. Enfin, elles existent dans toute la société et du coup, elles existent dans nos mouvements politiques. Sauf que la justice, tout le monde est d'accord ici pour dire qu'elle est défaillante pour traiter des cas de violences sexistes et sexuelles. Du coup, la question, c'est quels outils les mouvements politiques ont pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est ça le débat dans lequel s'est retrouvée la France insoumise. Alors à l'intérieur, vous avez eu de tout. Vous avez eu de toutes les positions. Et c'était du débat de fond. C'était du débat de savoir si jamais une personne, elle doit être directement totalement exclue, de savoir si jamais il n'y a pas une question de réinsertion. Et en fait, tous ces débats-là nous ont empêchés de pouvoir gérer la situation rapidement parce qu'en fait, personne aujourd'hui dans la classe politique ne sait s'équiper d'outils corrects pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et personne à la France insoumise ne vous dira que la façon dont a été gérée l'affaire Quatennens est satisfaisante. Et donc, il y a des personnes qui
Jean-Luc Mélenchon a l'air satisfait.
Vous avez des personnes qui sont satisfaites de la façon dont ça a été géré, vous en avez d'autres qui ne sont pas satisfaites. Et en fait, on apprend en marchant. Et j'espère bien que si jamais ça se reproduit, et probablement que ça se reproduira, eh bien, on sera capable de beaucoup mieux gérer la situation.
Ouais. Ça c'était bon.
Moi, c'est sur un autre sujet, enfin, qui est proche quand même. Hein. Mais sur celui de la conflictualité dont tu parlais, on a l'impression quand même qu'il y a eu une évolution dans la stratégie de la France insoumise entre 2017 et 2022, entre une stratégie, enfin, populisme au sens pas médiatique en parlant, mais tu as d'opposition entre le peuple et les élites à une stratégie d'union de la gauche qu'on a retrouvée au moment de l'ANUPS. Et justement, est-ce que vous n'êtes pas encore dans une stratégie de la conflictualité en étant à l'intérieur de l'ANUPS et comment composer avec des partis qui n'ont pas du tout la même vision des choses, qui pensent que, tu vois, les proches du Parti Socialiste d'Europe Écologie Les Verts, ils pensent que leurs députés devraient pouvoir faire des compromis dans certaines circonstances avec le gouvernement, même là sur la réforme des retraites, et ce n'est pas du tout le cas chez les proches de la France Insoumise. Donc comment faire pour un peu gérer ce paradoxe?
Premièrement, la stratégie qu'on a eue, ça a toujours été la stratégie de la conflictualité, parce que justement la conflictualité, elle permet de révéler des contradictions dans un système que nous on dénonce, et on maintient cela, c'est utile, ça a fait ses preuves. Notre stratégie ensuite, c'était celle de l'union populaire, c'était celle de rassembler plein d'actrices et d'acteurs des mouvements sociaux, en fait de rassembler toutes les personnes qui étaient pour une politique écologique, démocratique, sociale, et derrière d'en faire l'union populaire, ce qui nous a fait faire notre score à la présidentielle, et qui nous a permis derrière de faire la NUPES. Il faut être assez lucide sur le fait que la NUPES, elle a été faite grâce aux résultats de la présidentielle, et où les autres composantes de la NUPES ont justement compris qu'il fallait avoir une ligne politique de rupture. Et la NUPES, ce n'est pas qu'un accord électoral des législatives, c'est un programme partagé, c'est des idées qui sont partagées. Et donc forcément, on se cherche encore, on apprend à se connaître. Mais et d'ailleurs, on a des styles qui sont très très différents, et c'est justement ça qui fait la force de la NUPES. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la NUPES, premier essai, première au premier tour des élections législative. Et s'il n'y avait pas eu l'électorat macroniste qui s'abstenait lorsqu'on était face au Rassemblement National, probablement qu'on aurait eu la majorité. Donc ça, c'est un autre souci pour nous. Et donc du coup, la NUPES, à la fois, il faut qu'on apprenne à la construire petit à petit. En même temps, il faut que chacun garde son identité, mais il faut quand même garder un truc, quoi. Et moi, je le dis d'autant plus en disant que, en fait, nous, quand on est jeunes, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps des divisions de la gauche. Je veux dire, imaginez si jamais la NUPES s'éclate, ça veut dire qu'on perd toutes les prochaines échéances électorales. Vous avez dernière rénovation qui vous explique qu'il nous reste un peu plus de 700 jours. Je suis désolé, mais on n'a pas de temps de perdre la NUPES. Donc à la fois on doit apprendre et en même temps on doit aussi avoir conscience que c'est un outil qu'il faut vraiment pas casser. Et quand il y a des élus de la gauche qui appellent à un acte 2 de la NUPES, mais nous on est complètement pour. C'est un outil qui se construit au fur et à mesure. Mais un acte 2 de la NUPES, ça veut dire que on se remet d'accord sur le fait que on a un programme qui est partagé, on a un accord pour pouvoir participer ensemble aux élections, aux sénatoriales, aux européennes, et puis que derrière on espère qu'on pourra gagner ensemble la présidentielle. C'est ça l'objectif de la NUPES.
Je me disais, quand on est député à 22 ans, c'est quoi la suite?
Moi, en fait, mais c'est vrai. Mais moi, en fait, de base, à la base, en fait, j'étais en train d'arrêter mes études et mon plan, c'était d'aller vendre des tacos. Et du coup, ensuite, je me suis présenté. Et honnêtement, je vous jure, pour les pères, il y en a dans le public, ils ont participé à la campagne. Elle était désespérée, cette campagne. Genre, on n'y croyait pas, quoi. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, je me retrouve dans un truc où, je sais pas quelle est la suite. Enfin, genre, je suis le premier à me poser des questions parce que je commence à 22 ans. Ouais. Vous imaginez si jamais je fais ça toute ma vie? Enfin, genre, je vais devenir un Gérard Larcher ou un truc comme ça, quoi. Non, mais je veux dire.
Jean-Luc Mélenchon.
Ah, oui.
Oui.
Non, mais ouais, mais d'un autre côté, en soi, moi, mon objectif, enfin, j'ai pas fait.
À moins que vous préfériez l'exemple de Gérard Larcher. Hein, les bras m'en tombent.
Non, mais honnêtement, j'en sais rien. Je tire pas des plans sur la comète parce que, au fond, moi, mon objectif.
Mais continuez en politique. Vous envisagez votre carrière politique.
En fait, je me pose la question parce que d'un autre côté, j'ai du bol, quoi. Enfin, je veux dire, je suis le premier à être étonné de la situation, quoi. Donc, j'ai envie de continuer. Et d'un autre côté, justement, j'ai pas envie de me déconnecter. Et donc, du coup, c'est une question que je me pose.
Mais ouais, justement, enfin, dans la perspective typiquement d'une 6e République, il y a quand même cette volonté de renouvellement récurrent de la classe politique. C'est quand même quelque chose de très très fort. Et encore une fois, là, je dois quand même souligner l'incohérence entre la théorie et la pratique. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment faire carrière en politique, genre vous, dans 50 ans, est-ce qu'on vous réinvite sur le plateau de Backseat? Je sais pas si on sera encore là.
J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais absolument rien. Mais après, moi, mon objectif, c'est la 6e République, la planification écologique et surtout la garantie jeune. C'est ça, mon combat. Et donc après, pour moi, à partir du moment où le travail est fait, et notamment où il y a eu la 6e République, j'aurai aussi conscience que j'ai évolué dans un système qui est la 5e République et qu'il faut que je fasse gaffe, en fait. Il faut que je fasse gaffe à pas me déconnecter. D'ailleurs, si jamais je continue et que je suis déconnecté, tapez-moi, quoi.
Non, mais c'est une vraie question. J'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus qui me disent c'est difficile de rester, sur le terrain, quoi, d'avoir une connexion réelle avec le monde, avec...
Déjà, j'essaie justement de rester le plus connecté possible, déjà, premièrement. Enfin, je veux dire, j'ai gardé mes potes, je fais des trucs, je continue de mener ma vie à peu près normalement. Et puis ensuite, si jamais un jour je me retrouve dans une situation où tout le monde me dit « casse-toi », j'espère que je me casserai, quoi. Voilà.
Pas comme Jean-Luc, du coup.
Non, parce que en vrai,
mais on l'embrasse, ça va, vrai, on déconne, oh là là. Bon, ok, très bien. C'est assez intéressant ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Parce que vous avez lancé, moi j'étais surprise, vous avez lancé cet appel au blocus, blocus challenge. C'est ça?
Ouais, allons-y. Okay.
Hashtag, pardon.
Est-ce qu'on a un gagnant ou pas?
Je voulais poser la question. Je t'en prie, vas-y.
Est-ce qu'on a un gagnant, du coup?
Ouais. Qui est l'heureux ou l'heureuse élue?
Première gagnante, Valérie Pécresse, pour son occupation de l'ENA à l'époque. Et il y aura vendredi, donc du coup demain soir, il y aura un gagnant parce que au fond,
c'est elle qui va visiter l'Assemblée nationale.
Je l'ai invitée à visiter l'Assemblée nationale. on verra si jamais elle accepte. Mais la véritable victoire, bien sûr, c'est le retrait de la réforme des retraites. Et en vrai, ça nous fait aussi plaisir de pouvoir inviter des lycéens ou des étudiants qui ont bloqué leur lycée ou leurs universités, parce que aussi, justement, quand je disais, on leur reconnaît cette légitimité, justement, par votre acte militant, vous avez toute votre place dans la maison du peuple. Et ça, c'est un message et un moment qui va nous faire plaisir.
Et est-ce que ceux qui n'ont pas bloqué sont aussi bienvenus?
Alors, bien sûr, vous pouvez envoyer un mail de demande à visiter l'Assemblée nationale. Nous, en général, en fait, on a des créneaux de visite. Et nous, en général, on essaie de faire visiter les écoles primaires ou les collèges de la circonscription. On fait les visites avec les enfants et c'est super chouette. Et là, du coup, on a justement trouvé un moyen de ne pas utiliser un créneau pour l'école primaire, mais on a trouvé un autre créneau en loose day qui marchera bien. Donc, du coup, voilà, bienvenue. Hein.
C'est bien. J'ai une question blocus, justement. Ça marche très bien dans la jeunesse, mais mardi, l'idée, c'était de mettre la France à l'arrêt. Mmh. Et le fait est que ça n'a pas marché, a priori, factuellement. Comment vous allez faire pour, justement, que ce mouvement de blocage, il passe de la jeunesse à toute la France, en fait?
Franchement, c'est quand même un gros mouvement. Hein. C'est les plus grosses manifestations qu'on ait pu connues depuis les années 90.
Non, vraiment, on passe en question.
Mais après, mettre la France à l'arrêt, ça se fait pas si facilement que ça. Ça prend son temps. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les syndicats qui se sont organisés par secteur. C'est-à-dire, mardi, vous avez les raffineurs qui se mettent en grève. Le mercredi, c'est les transports. Ensuite, c'est l'énergie. Et du coup, tout ça est en train de s'opérer. Et en fait, parce qu'il y a des secteurs stratégiques qui sont mis en grève, c'est en train de désorganiser toute l'économie. Parce que nous, on est bien conscients. Macron, il s'en fiche de savoir qu'il y a plus de RERD. Par contre, le patronat, ça l'intéresse. Et ils commencent à perdre des sous. Et à partir du moment où ils considéreront que ça leur commence à leur coûter trop cher, ils vont appeler Emmanuel Macron. Et puisqu'Emmanuel Macron n'écoute que le patronat, alors comme ça, il va céder. Donc, il y a déjà un rapport de force qui est en train de s'opérer dans l'obscurité, dans le silence. Mais là, il y a des choses qui sont très, très grosses qui sont en train de se jouer. C'est pour ça que nous, on est contents de la mobilisation. Mais bien sûr, il va falloir aller plus loin. Déjà, en espérant que les élus de la majorité et de LR prendront leurs responsabilités et ne voteront pas la réforme des retraites. Mais même si jamais ça devait être amené à être voté, après le CPE, on a gagné, même après que la loi a été votée. Donc on ne s'arrêtera pas. Nous, en tout cas, à la France Insoumise, et je crois que les syndicats ont fait passer le message aussi, ils ne s'arrêteront pas que la loi soit votée ou pas. Et le patronat finira par appeler Macron et lui dire « retire ». Et on espère qu'il écoutera.
Mais tout à l'heure... Pardon, vas-y Antoine.
Mais justement, tu mentionnes les syndicats. Et il y a eu quand même plusieurs sorties de Laurent Berger ou Philippe Martinez pour insister sur le fait que c'était une mobilisation qui était sociale et pas une mobilisation politique. Bon, alors, on pourrait disserter sur cet aspect-là, mais le fait est que l'opposition qui s'exerce à l'Assemblée nationale semble un peu déconnectée de l'opposition qui s'organise dans la rue. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, peut-être une meilleure communication, c'est vraiment le terme de l'interview, entre le front syndical et le front politique à l'Assemblée nationale par rapport à cette réforme des retraites?
Au fond, je comprends pas du coup, parce qu'on est unis dans la rue.
Les syndicats ont l'air de reprocher à la France Insoumise notamment le fait de vouloir mettre la main sur la mobilisation dans la rue. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème justement de savoir qui doit organiser la lutte, et est-ce que ça peut être vraiment complémentaire?
Ceux qui doivent organiser la lutte, la grève, ce sont les syndicats. Et d'ailleurs, on n'aurait pas la prétention de le faire. Il en faut des compétences et une organisation pour l'avoir, que seuls les syndicats possèdent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous n'appelons pour les journées de grève, on suit les syndicats, toujours. Moi-même, tous les appels que je lance, ce sont les appels qui ont été lancés par les organisations de jeunesse. Et nous, on est là en soutien. On va sur les piquets de grève et on a organisé une caisse de grève aussi, où on donne beaucoup aux grévistes. Donc nous, on essaie d'être en soutien. Après, il y a des moments, il peut y avoir des désaccords. Par exemple, entre les syndicats et nous, on n'était pas d'accord sur la question de l'article 7 à l'Assemblée nationale. Mais on regrette pas ce choix. Il fallait surtout pas aller à l'article 7. Et donc, d'un autre côté, c'est normal de pas toujours être d'accord. Et je trouve même que c'est sain. Ce serait très très inquiétant si jamais l'intersyndicale était constamment d'accord avec la France insoumise ou avec n'importe quel autre parti politique. C'est d'ailleurs justement ça, respecter la charte d'Amiens. Et on apprend des uns et on apprend des autres. On fait des erreurs. Et puis ensuite, à la fin, honnêtement, on est content de se retrouver en manif, quoi. Enfin, moi, quand je vois des camarades de la CGT, de la CFDT, de Sud, venir en manif, on vient pas se parler de l'article 7, quoi. On vient partager une merguez et puis on fait la lutte ensemble, quoi.
Petite question aussi, Louis Boyard, pour terminer cette interview, avant de passer au meilleur moment de l'émission, qui est le quiz à la con, et que vous allez avoir le plaisir de partager avec nous. Cet après-midi, il y avait un rassemblement devant le parvis de la gare Salinzard, avec notamment des élus qui se sont présentés et qui ont été hués par les étudiants.
Ah ouais?
Vous non, mais justement, comment votre présence a été réceptionnée par ces étudiants?
Moi, étudiantes. Moi, j'ai bien aimé, c'était sympa.
Vous avez pas l'impression de taper l'incruste parfois, enfin. Ah, vraiment, désolé.
Non, ça dépend. En fait, vous avez des personnes qui considèrent que peut-être qu'il faut pas les élus. Puis vous en avez d'autres personnes qui considèrent que c'est très bien d'avoir des élus et d'avoir un soutien. Et encore une fois, il y a un débat et c'est chouette. Après, par exemple, moi pour y avoir été, vous aviez par exemple les étudiants des écoles d'architecture qui sont vraiment dans une galère immense. J'ai pu discuter avec les étudiantes et les étudiants d'archi et du coup après qu'ils m'expliquaient tout ça, j'ai pris le mégaphone et je leur ai expliqué qu'il allait avoir une délégation qui allait être reçu à l'Assemblée nationale pour faire entendre leur sujet. Les archis, ils étaient contents que les élus soient là. Les totos, ils étaient pas contents que les élus soient là. La manif, elle a quand même avancé et on se retrouvera pour la prochaine.
Merci beaucoup, Louis.
Merci à vous.
Merci pour cette interview. Et maintenant, le quiz à la con, le moment tant attendu de la soirée.
Je suis censé me barrer ou...
Ah non, vous pouvez vous choisir, vous voulez rester ou pas?
C'est simple,
il y a que 5 questions, ça
passe
assez vite.
Allez, on y va, ça va être marrant.
Ok, c'est un quiz à la con spécial.
Une question aussi,
ouais.
Sur la chorale.
Ah oui, vas-y, je t'en prie.
À ce qui paraît, les Insoumis ont lancé une chorale à l'Assemblée nationale.
Et je suis dans ce groupe.
Est-ce que vous avez
pas compris? Moi, je suis dans le groupe, je suis pas le truc, je vois qu'il y a des messages, donc apparemment, ils sont en train de lancer une chorale. J'ai vu que dans le groupe, ils avaient partagé une chanson, donc je demande à voir.
C'est quoi la chanson?
Je sais même plus, j'ai pas lu, moi je suis pas la chorale. apparemment, il y a une chorale Insoumise, je suis dans le groupe, j'ai pas pris le temps de regarder, et honnêtement, j'attends de voir. Donc je me spoil pas, et j'ai hâte de voir les camarades chanter tous ensemble.
Mais ce sera sans vous, du coup.
Je chante mal.
Ça pourrait peut-être aider.
Peut-être on pourrait apprendre. Je verrai. Franchement, je vais voir la première et après peut-être je rejoindrai.
Vous nous inviterez au concert?
Ouais, carrément.
Cool.
Vous pourrez faire un concert et ensuite tous les dons vont à Backseat.
Ah, oh. C'est pas moi qui prends la décision. N'oubliez pas d'ailleurs de donner à Backseat, c'est votre dernière chance pendant ce quiz à la con. On en a quoi là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir le montant?
On est à plus de 159 000 pendant les...
Allez, ouais. On dépasse les 160 au moins les gens, s'il vous plaît, ce serait fabuleux. Merci beaucoup. C'est parti, un petit quiz à la con spécial lutte féministe. Vous êtes prêts?
Let's go.
Donc, il y a 5 questions. 5 questions, 4 réponses au choix. Moi, je perds toujours. Là, j'ai les réponses. Je suis trop saucée. Mais du coup, je peux pas jouer. C'est dommage. Enfin bon, bref. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, quelle initiative a réellement eu lieu? Tata. Faudrait un petit jingle. Ça manque. Un match de basket gratuit pour les femmes venant habillées en rose. Un bon pour gagner votre différence de salaire en chocolat. L'élection de Miss Ménagère avec une épreuve de nettoyage. Un labyrinthe en plein air menant à une cuisine. Donc, quelle initiative a réellement eu lieu?
Faut que les hommes arrêtent d'organiser le 8 mars. Hein. On est d'accord?
Ouais, je pense, ouais. Non, parce que là, c'est turbo gênant. C'est pépite sexiste, la turbo 1000. Hein. Alors, Louis Boyard, vous en pensez quoi?
Franchement, au début, je croyais qu'elles étaient toutes fausses parce que je connais pas le concept. Mais franchement, je dirais la C parce que je pense qu'une marque serait capable de faire ça.
La C, ok.
Moi, je dirais la A.
La A pour Antoine?
Pareil, la A.
Ok, que dit le chat? On a les résultats du chat. Que dit Jean? Jean Bastier, il a voté? J'ai pas vu, quelqu'un a vu ce qu'il a voté?
Je crois qu'il a pas voté, mais il a commenté. J'ai vu
ok, il y a encore, on est encore en vote. Moi, je vais quand même, je vais voter, même si j'ai la réponse, je m'en fous. Non, comme ça. Je vais voter une autre réponse que la bonne réponse. Non, du coup, ça donne trop d'indications. Ouais. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il dit?
Ah, j'en dis C.
Ok, a priori, on est plutôt sur la réponse A. Eh bien, c'est la bonne réponse.
Je sais pas s'il faut être content.
Non. Mais est-ce que... Alors bon, bref. En 2017, un club de basketball normand... Ah, c'est en Normandie. Proposait des places gratuites pour un match à toute femme vêtue de rose. L'initiative a été dénoncée par l'association Oser le féminisme. L'idée de base était d'offrir le ticket à chaque femme accompagnée d'un homme. Donc, ah oui, quand même, merde. J'avais pas vu le fin de la phrase. La C est fausse. En 2017, à l'occasion de la semaine pour les droits des femmes, organisée du 6 au 10 mars par la mairie de Montélimar, vous savez où c'est Montélimar? C'est dans la Drôme, c'est charmant. Un atelier avait... C'est de là où vient le nougat. Voilà, je fais un peu mon fun fact. Hein, j'habitais à côté. Un atelier avait pour but d'apprendre à ces dames à fabriquer leurs propres produits ménagers. C'est trop bien.
T'as vu qu'il y a un patelin, je ne sais où, qui a inauguré un banc rouge? Pour soutenir
oui,
les
tout
femmes.
À fait, pour lutter contre les violences.
Exactement. Mmh. On apprécie le geste.
Bon, allez, on va tenir encore les 4 autres questions. J'ai un peu un doute là. Vous avez pas envie de partir en courant, ça va? Non? Ok. Je vous assure, c'est mieux après. Lequel de ces collectifs féministes n'a jamais existé? Réponse A, les fémilites. Réponse B, les insoumuses. Réponse C, ne rigolez pas si vite, les chiennes de garde. Réponse D, les gouines rouges. Alors, d'après vous, Sacha?
Les chiennes de garde, moi, je pense que ça existe. Je dirais les insoumuses, ouais. Là, comme ça.
Ouais, pareil, insoumuses.
Et vous?
Je crois que ça peut exister, les insoumuses. Moi, je dirais les fémilites.
Pris en flag.
Mmh. Eh bien, bravo. J'ai oublié d'attendre le chat. Eh bien, bravo. On ne sait pas qui encore, mais bravo. Bravo, sincèrement, bravo. C'était une très, très belle victoire arrachée à ça de la fin. Non. Que dit le chat?
On sait pas.
Pas mal de A, je crois.
Qu'est-ce que c'est long, le vote du chat, c'est pire qu'une présidentielle, quoi. C'est...
Pire qu'un dépouillement des votes au PS.
Je te jure, ouais. Alors, on va convoquer la commission de recollement. Ok, ils disent la B. Jean Massier aussi. Eh bien, j'ai la triste nouvelle de vous annoncer que vous avez une très mauvaise culture féministe pour celles et ceux qui disent la B.
Ah.
Parce qu'il s'agit des Insoumuses. Les Insoumuses étaient un collectif qui était notamment l'idée par l'actrice Delphine Seyrig dans les années 70. Et c'était un super collectif qui a fait plein de choses assez géniales. Et notamment qui s'est saisi de l'outil de la vidéo pour aller recueillir la parole des femmes. C'était assez novateur. Bon, bref, j'arrête de faire ma féministe planning. Donc, c'était effectivement la réponse A. La bonne réponse. Okay. Les fémilites n'ont jamais existé.
Les féministes.
Les chiennes de garde ont existé. Les Gouines Rouges aussi, qui étaient un mouvement radical féministe lesbien fondé en 1971. Et le groupe devient inactif à partir de 73. Voilà. Vous dire, les Chiennes de Garde, une association française créée en 99 par Florence Montreneau et la romancière Isabelle Alonso, s'inscrivant dans la mouvance féministe. L'association défend les femmes contre les insultes sexistes, notamment dans l'espace public, les médias, la publicité. Voilà pour les infos. Et donc vous pouvez débarquer et dire que les Insoumises ont existé aux Insoumises.
Ok.
Voilà. Pour votre petite, petite culture perso et militante. Réponse 3. Non, question 3. Putain, c'est vachement plus compliqué d'animer le quiz à la con que jouer, en fait. Hein. C'est ouf. Allez, c'est parti. Laquelle de ces propositions a réellement été faite par un collectif féministe pour lutter contre le sexisme dans l'espace ? L'espace. Voilà. Allez, c'est parti. Réponse A. Que l'ISS ait à son bord des serviettes hygiéniques adaptées à l'apesanteur. Qu'une étoile sur deux porte un nom de femme, que les combinaisons spatiales soient unisexes, construire une fusée en forme de vagin.
Moi, je pense la B, mais elle a été faite par un mec.
Vous, vous dites la B ?
Speechless.
Pas facile. Je rappelle bien que c'est laquelle de ces propositions qui a réellement été faite par un collectif féministe hein, pour lutter contre le sexisme dans l'espace.
Ah, c'est par un collectif féministe ?
Ouais.
Ah, voilà, ça change tout.
Ça change tout, mais trop tard.
Non.
Non. Non, allez-y. Allez, deuxième chance. Exceptionnelle, d'ailleurs. Hein,
Mais en vrai, moi, je me...
Vous avez un joker.
Un joker ?
Ouais.
Bah, je mets la A.
Ok. Ce serait quoi, des serviettes hygiéniques ?
Bah, je m'interroge, c'est pour ça que je fais cette réponse.
Non, mais parce que vous avez l'air au courant, donc c'est pour ça que je me permets de... Suffisamment pour choisir cette réponse, en tout cas. Sacha, allez, Sacha,
pour
que tu dises quelque chose.
La C.
Ok. Mm. Antoine, la t'as l'air super inspiré aussi.
Ouais, non.
Cool. Que dit le chat ? Réponse A pour le chat. Eh bien non, c'était la réponse D. La réponse D. Eh ben oui.
Oh, ça.
Lassé par les fusées phalliques, un collectif féministe allemand. Alors, je vais pas le faire. Je peux pas le dire. Quelqu'un parle allemand ici ?
Ouais.
Non.
Ok, vas-y, s'il te plaît, lis ça, parce que moi, je vais me ridiculiser.
Verbraucht Feminismus.
Ok.
En fait, c'est une question scientifique, à un moment aussi. C'est peut-être pas.
Bah, regarde.
Waouh.
Alors, la traduction de ce collectif, c'est qui a besoin du féminisme ? Point d'interrogation. Ok. A créé une fusée en forme de vulve afin de lutter pour l'égalité des sexes dans l'espace. Ce design serait aussi plus aérodynamique que les fusées traditionnelles. Bah ouais, pourquoi pas.
Elle a vraiment été construite ?
Ça a été proposé.
Oh.
C'était une proposition. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est plus confortable à l'intérieur ? Non mais parce que comme c'est... Non mais tout de suite là... Non mais vous avez pas vu la gueule du public, hein. Ils sont outrés quoi. Non mais je veux dire en termes pratiques quoi. Enfin, vous avez bien vu comment c'est fait, clairement pour la répartition des espaces qu'un truc comme ça. Enfin bon bref, c'est peut-être plus convivial. Non je sais pas.
Prochaine question.
Oui, donc on avait l'image. Ok, bon, on passe à la prochaine question, à la demande générale. Pourquoi la ville de Ville-aux-Dames est unique en France ? La ville est peuplée uniquement de femmes. Tous les monuments, rues et bâtiments ont des noms de femmes. Les maires, restes, du coup, de la ville ont toutes été des femmes. Des snipers sont placés à des endroits stratégiques de la ville et vous exécutent si vous sifflez une femme dans la rue.
Oh ! Ah ouais !
Oh, ça me donne des idées, ça!
La radicalisation,
c'est
quand même...
Génial! Alors, qu'en pensez-vous?
Moi, je dirais B.
Ouais, moi aussi.
Ouais, B aussi.
Ah ouais, fast touch, quoi. Genre, vous mouillez pas du tout.
Non.
Personne ne prend les snipers. Non? Heureusement que je joue pas. Hein, parce que... Vous avez peur de perdre, c'est ça? Louis Boyard, à 22 ans, député, vous avez peur de perdre?
Sur une question comme ça, oui.
Ah ouais. Que dit le chat ? Si le chat a eu le temps d'aller au second tour de la présidentielle ? Pas encore. Ils sont à fond sur la baie. Ok, bon, bah, c'est bien la baie, effectivement.
Toi, même la réponse, elle est chiante.
Je suis un peu déçue, j'avoue. C'est en Indre-et-Loire, à côté de Tours, abritant 5000 habitants, teux. Il s'agit de la seule commune française dont tous les noms de rues, de monuments et de bâtiments importants sont uniquement au nom de portent uniquement des noms de femmes. Le conseil municipal adopta cette originalité. Originalité, qui a écrit ça? Cette originalité. C'est pas moi qui ai fait le texte. En 74, je sais pas si c'est original, militant. Quel était le but? 74, émergence d'un féminisme d'État. C'était du washing. Alors. Le maire est par contre bien un homme et s'appelle Alain Bernard, qu'on embrasse, hein, bien sûr.
Ouais. Alain Bernard.
Alain Bernard, en 74, il était déjà maire, il est encore aujourd'hui, il va falloir arrêter Bernard. Oh, wow. Bon, bref, posez-vous des questions sur votre avenir en politique. Cinquième question, vous êtes prêts et prêtes? Lequel de ces articles, titres d'articles est faux? Elisabeth II, sa force, c'est son mari. B. Oh. Sa place est à la cuisine de la Tour d'Argent, la nouvelle chef étoilée du restaurant mythique. Ça, c'est possible. C'est Elon Musk donne naissance à son sixième enfant. C'est aussi possible. D. Deux femmes sortent seules dans l'espace, une première. C'est aussi possible.
Wow.
Il y a un point à la fin du titre.
Alors, c'est pas Alain Bernard, pardon, c'est Alain Bénard. Parce que je vois que... Le chat, ça va l'empêcher de dormir, si on
dit. Ah oui, Alain Bernard, c'est un nageur.
Ah oui, bah oui, je vois bien qu'il y a une confusion, hein, mais bon, si vous savez que c'est un nageur, pourquoi vous demandez si c'est le maire de la ville de je sais pas quoi, là? Bon.
Ça va bien se passer, Léa.
Ouais. On y est presque. Monsieur le député, qu'en pensez-vous?
Moi, je dirais la D.
D, la réponse D. C'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot. Ouais.
Sachant que c'est la
j'ai
dernière
plus
réponse.
Plus de joker de toute façon. Non,
là, c'est all-in.
La B, ça fait moins un titre d'article.
Ouais. Sacha?
Je dirais la B aussi. Je dirais la B aussi.
Ok. Que dit le chat? La D. Le chat dit la D.
Mais
okay.
Je crois que la D, c'est une vraie info.
Eh bien, effectivement, c'est bien la réponse B. Le faux titre d'article et sa place est à la cuisine de la Tour d'Argent, la nouvelle chef étoilée du restaurant mythique. Toutes les autres, néanmoins, sont vraies.
C'est-à-dire qu'il y a un média qui a titré « Elon Musk donne naissance à son sixième enfant
» Tout à fait, et il s'agissait du média Futura.
Ah,
voilà. On balance hein, ce soir. Pour la A, c'était
pas
Gala. Non, il n'y a
c'est
pas le JDD. T'es déçu, hein?
Enfin, m'en assurer quand même.
Oui, vérifie quand même dans les archives. Et enfin, pour la D, c'était le Dauphiné. Voilà, le Dauphiné Libéré, oh. un charmant journal local du Dauphiné, comme son nom l'indique. Je ne sais pas si vous voyez, c'est là où il y a le gratin dauphinois, tout ça. Non, mais c'est vrai en plus! Vous faites ma gueule! C'est les Côtes-du-Rhône, quoi. Bien, merci pour tout. Merci Louis Boyard
merci.
Pour cette fabuleuse émission. J'espère que c'était cool.
Bah ouais, c'était
ça
cool.
Ça va, c'était pas trop traumatisant le
si
quiz à la con.
Si je faire un autre quiz la prochaine fois, bah là c'était un enchaînement de titres pas ouf quoi.
Je t'avoue que c'était pas ouf. Ouais. Est-ce que vous étiez préparé pour le quiz à la con ce soir?
Non, pas du
genre
tout.
Genre en mode roue libre.
Ouais, totalement.
Et bah bravo pour cette première.
Bah merci cas, beaucoup,
c'était
merci.
C'était une jolie perf. Je pense que vous avez fait plus de points que moi toute émission réunie. Je dois bien vous tirer mon chapeau, du coup. Je dois l'avouer. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, un bon moment en dehors du quiz à la con.
Mais tout du long. Et en plus, je suis content parce que bah, dans ce que j'expliquais d'essayer de connecter les jeunes à la politique, Backseat, la philosophie de l'émission, c'est ça. Donc je suis... Enfin, pour moi, symboliquement, parce que du coup, j'avais beaucoup suivi le début de Backseat et tout. Et du coup, je suis trop content de passer ici. Je suis trop content de vous avoir vu. Je suis trop content de ce que vous faites. Donc voilà, merci.
Eh ben nickel. On vous invite à rester encore un peu si vous voulez
avec
qu'on partage une bière
plaisir.
Ensemble. Pas la même bière, hein, je précise. Mais en tout cas, vous... On se voit en after avec ce public fabuleux et je vous rappelle que vous pouvez acheter des places.